Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commerciale. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours.
Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast sur Major Prépa. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter ensemble un sujet de géopolitique tombé à l'oral HEC 2019, le protectionnisme et la crise de 1929. Quelles leçons ? Dans une conférence de comparaison entre les crises financières de 1929 et de 2009, l'historien Patrice Bobo déclarait « La hausse des droits de douane après 1929 a précipité la crise mondiale ». L'historien pose ainsi l'existence d'un lien intrinsèque entre la réaction protectionniste qui a été celle de nombreux États et la réalité de fait, qui est que la crise financière américaine de 1929 dégénère en une crise économique mondiale. Le protectionnisme peut être défini comme une politique économique interventionniste consistant à protéger l'économie nationale de la concurrence étrangère pour défendre l'emploi, la balance commerciale ou le niveau de vie. La crise de 1929 est d'abord financière. Elle naît aux États-Unis, puis s'étend à l'ensemble du monde sous la forme d'une crise économique et sociale, en particulier à travers l'endettement de nombreux États auprès des États-Unis au sortir de la Première Guerre mondiale. Le mot « leçon » nous invite à réfléchir sur les éventuels enseignements à tirer, dont il faudra donc déterminer la nature et la pertinence. Il conviendra aussi de s'interroger sur le lien réciproque entre les deux faits. Ainsi, quelles leçons peut-on tirer de l'application du protectionnisme dans la crise de 1929 et les années 30, et comment ces leçons ont-elles été retenues par la suite ? Dans un premier temps, nous verrons qu'en réaction à la crise de 1929, les États adoptent des mesures protectionnistes qui se révèlent de mauvais choix dans les années 30. Mais ce n'est pas pour autant à proprement parler le protectionnisme qui pose problème dans la gestion de la crise puis de la Grande Dépression. Enfin, il conviendra de réactualiser ces éventuelles leçons et de s'interroger sur leur pérennité pour savoir si elles ont bien été apprises et appliquées lors des crises suivantes. Tout d'abord, en réaction à la crise de 1929, les États adoptent un cocktail de mesures protectionnistes qui se révèlent de mauvais choix par la suite. La première, c'est la mise en place de barrières douanières qui achèvent de tuer le commerce international et poussent les États au repli sur soi. Suite au krach boursier américain d'octobre 1929 et à la contagion à l'économie américaine puis aux économies européennes, la production chute brutalement. Moins 50% aux États-Unis et en Allemagne, moins 30% au Royaume-Uni. Pour tenter de préserver l'économie américaine, en 1930, contre l'avis de nombreux économistes, le président Hoover accepte le tarif douanier Hawley-Smoot, qui remonte les droits de douane à 52% sur plus de 20 000 types de biens. En réaction à cette entrave au commerce, de nombreux États augmentent à leur tour les droits de douane. Ensuite, pour doper les exportations, ces mêmes États procèdent à des dévaluations compétitives qui créent un cercle vicieux. Pour tenter de redevenir brièvement plus compétitif que le voisin, les États pratiquent la dévaluation compétitive, c'est-à-dire l'abaissement à l'extrême du taux de change de la monnaie nationale. En 1931, le Royaume-Uni dévalue unilatéralement la livre sterling. Dans le cadre du New Deal, Roosevelt dévalue à son tour le dollar en 1933 puis en 1935. À l'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936, le franc est à son tour dévalué. Au total, ce seront plus de 40 monnaies qui seront dévaluées à répétition pendant la décennie. Enfin, cela induit un repli sur soi qui est vu comme une manière d'éviter la contagion internationale mais favorise aussi l'autarcie et les résurgences nationalistes. Face à la dégradation de la conjoncture, les économies qui le peuvent se sont recentrées sur le commerce national et ont privilégié les échanges avec leur empire colonial ou à défaut leur arrière-cour. Trois grandes zones monétaires se forment. La zone dollar, regroupant les États-Unis et leur pré-carré d'Amérique latine. La zone sterling, formée à partir de 1932 lorsque les accords d'Ottawa instaurent la préférence impériale et que le Commonwealth of Nations est fondé. Et le bloc or autour du franc, créé en 1933 entre la France, ses colonies, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse. Pendant ce temps, l'Allemagne, l'Italie, l'URSS et le Japon se recentrent sur la production nationale et privilégient le réarmement. Ces pays, à solution militaire, mettent en place une véritable autarcie économique qui est souvent couplée à des discours encourageant la production nationale, exaltant la supériorité de la nation, en un mot, des exaltations nationalistes. Ensuite, on peut aussi souligner que ce n'est pas à proprement parler le protectionnisme qui pose problème dans la gestion de la crise. Tout d'abord parce que la mauvaise gestion de la crise de 1929 et de la Grande Dépression dans les années 30 est en réalité liée à trois grands dysfonctionnements. Le premier est avant tout monétaire. La Réserve fédérale américaine souhaite limiter l'inflation et préserver ses réserves d'or. En conséquence, elle remonte les taux d'intérêt dans les années 30, ce qui asphyxie les banques et les entreprises. Le second dysfonctionnement est budgétaire. Les gouvernements ne comprennent que très tard la nécessité d'adopter une politique budgétaire contracyclique et d'augmenter le stock de liquidités disponibles. Ce n'est qu'à la mise en place du New Deal que le déficit budgétaire se creuse, avec en particulier une politique de grands travaux, le versement de primes aux anciens combattants, le soutien à l'industrie ou à l'agriculture. Le troisième dysfonctionnement est commercial et est en effet lié à l'adoption d'un protectionnisme poussé à l'extrême, avec la remontée des barrières douanières et le repli autarcique. Par ailleurs, au cours des années 30, c'est aussi la rupture de la concertation internationale qui a des effets destructeurs. En effet, le problème ne réside pas tant dans l'application de mesures protectionnistes que dans la rupture de la coopération entre les États. À partir de 1933, le New Deal, considéré comme le père de toutes les relances, est mis en place avec des mesures de soutien à la production nationale qui entrent techniquement dans l'appareil protectionniste. On voit donc que la théorie n'est pas complètement à jeter à la poubelle. En revanche, dans les années 30, cela se couple à une rupture généralisée de la coopération interétatique sur des sujets économiques puis politiques. On peut citer en particulier l'échec de la conférence de Londres en 1933 à cause du refus américain de revenir à un système de convertibilité hors de toutes les monnaies. La question des dettes allemandes. À partir de la conférence de Lausanne en 1932, la France voit d'un mauvais œil l'allègement de la dette allemande quand rien n'est fait pour alléger la dette française. En 1933, à son arrivée au pouvoir, Hitler suspend intégralement le paiement des pénalités allemandes. Ensuite, les dévaluations compétitives unilatérales à partir de 1931, qui concernent, on l'a dit, une quarantaine de monnaies. Ce n'est qu'en 1936 qu'un accord de stabilité est signé entre les zones dollar, sterling et franc. Enfin, les dysfonctionnements politiques liés aux annexions successives par le Japon en Mandchourie, l'Italie en Éthiopie et l'Allemagne en Tchécoslovaquie puis dans les Sudètes, qui ponctuent la décennie. On voit donc qu'il faut prendre garde à ne pas tirer une fausse leçon. La tentation serait forte de dire que la crise amène le protectionnisme, qui conduit lui-même à la guerre. En réalité, le protectionnisme ne naît pas complètement de la crise, et il ne génère pas non plus la Grande Dépression ni la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'application de tarifs douaniers plus élevés naît de la Première Guerre mondiale par la nécessité de redresser une agriculture et une industrie souvent détruites, où les gains de productivité pèsent sur les prix. Ainsi, aux États-Unis, les droits de douane remontent dès 1932 à l'entrée en vigueur du tarif Fordney-McCumber, qui institue une remontée des droits de douane à 38%. De même, la fermeture des frontières n'explique pas à elle seule la Grande Dépression ou la guerre. C'est la faillite des systèmes bancaires nationaux qui cause la fermeture commerciale et déclenche une montée des périls, car elle se couple à des discours nationalistes exaltant l'expansion territoriale et la supériorité d'un peuple sur les autres. Enfin, il convient de réactualiser ces éventuelles leçons et de se demander si elles ont été retenues. On voit bien que les leçons tirées de l'application du protectionnisme dans la gestion de la crise de 1929 ont bien été retenues. Toutefois, on assiste aujourd'hui à des résurgences protectionnistes, en particulier dans les rhétoriques populistes. Tout d'abord, il faut souligner que les leçons telles qu'elles ont pu être tirées en 1929 ne sont plus vraiment valables. En effet, il est incontestable que le monde a changé. Les économies sont infiniment plus interdépendantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Les droits de douane ont été abaissés à des niveaux historiquement bas depuis les années 80 et les sphères d'influence qui ont permis le repli colonial dans les années 30 n'existent plus aujourd'hui. On peut pour autant remarquer qu'en 2009, la crise des subprimes et la crise économique mondiale qui en résulte prouvent que les leçons de 29 ont bien été retenues. En effet, en 2007, le directeur de la Réserve fédérale américaine est Ben Bernanke et lui-même a fait sa thèse sur les politiques économiques de gestion de la crise de 1929. En conséquence, il adopte la stratégie inverse après 2007. Il baisse les taux directeurs, injecte des liquidités dans l'économie pour éviter une dépression, assainit le système bancaire et procède par quantitative easing, c'est-à-dire rachat par la banque centrale de titres de dette aux banques, afin d'inciter celles-ci à accorder des crédits pour relancer l'emploi et la production et augmenter encore la masse de liquidités en circulation. Surtout, en 2009, la concertation économique internationale est maintenue. On peut citer les plans européens de sauvetage, notamment en Grèce, le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance adopté en 2012, la relance du G20 dès 2007, les accords de Bâle III signés en 2010 qui mettent en place un ratio de liquidité et redéfinissent la quantité de fonds propres réglementaires pour les banques, mais aussi les plans de relance budgétaire adoptés à des échelles nationales dans la plupart des pays. Pour finir, aujourd'hui, on vit incontestablement dans un monde qui est redevenu protectionniste. Les manifestations en sont nombreuses. Incitation à produire et acheter national, hostilité contre les travailleurs étrangers, remontée des droits de douane sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et l'Europe, relocalisation. La majorité des États adoptent aujourd'hui des mesures commerciales de protection des économies nationales, ce qui témoigne bien d'un certain retour du protectionnisme. Poussé à l'extrême, il devient un argument économique employé par les populistes. Le discours s'adresse aux classes populaires, souvent vues comme les laissés-pour-compte de la mondialisation. Il préconise une attitude anti-establishment et prône le règlement des problèmes nationaux par le repli commercial et politique sur soi. C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter la renégociation de l'ALENA par le président Trump en 2017 et 2018. Le nouvel accord impose des restrictions commerciales au Mexique, notamment sur les volumes et les prix des produits importés aux États-Unis, conformément aux idées défendues par Trump durant sa campagne de 2016. Ainsi, il est incontestable que les mesures protectionnistes adoptées suite à la crise de 1929, loin de la résoudre, l'aggravent. Néanmoins, la dépression qui naît de la crise de 1929 ne s'explique pas par le seul protectionnisme, mais bien par l'absence de coopération et la rupture de la concertation internationale. Le protectionnisme est révélateur de cette montée des périls dans les années 30, puisqu'il reflète le repli sur soi qui accompagne les résurgences nationalistes. La crise de 1929 est emblématique d'un choc conjoncturel devenu structurel et de l'impuissance des gouvernements à produire une solution durable. Cette crise paradigmatique a apporté des enseignements qui ont ensuite été appliqués dans la gestion des crises suivantes, en particulier en 2009. Néanmoins, le protectionnisme n'en reste pas moins d'actualité.